Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag, le libre cours de Radio Courtoisie. C'est avec un réel plaisir que je reçois aujourd'hui une jeune femme qui incarne à la fois la vitalité d'une nouvelle génération de droite et un attachement profond à nos racines. Originaire de Biarritz, ancrée dans ce magnifique pays basque des Pyrénées-Atlantiques, Emmanuelle Brisson porte avec fierté l'âme d'un territoire où se mêlent la beauté sauvage de l'océan, la force des montagnes et cette culture basque si riche et si vivante. Porte-parole des Républicains dans son département, elle préside le mouvement, on va en parler, hein, Vivement Demain, qui veut redonner aux jeunes le goût de l'engagement sans calcul ni clientélisme. Elle est de ces voix qui refusent les compromis tièdes, qui parlent vrai et qui assument publiquement leur foi chrétienne comme une source de force et d'espérance. Fille du sénateur Max Brisson, elle n'a pas choisi la facilité. Elle dénonce les dérives et appelle à une droite responsable, courageuse et enfin rassemblée autour de l'intérêt supérieur des Français.
Radio Courtoisie, toutes les droites, tous les talents.
Eh bien, Emmanuelle Brisson, bonjour et bienvenue sur Radio Courtoisie.
Bonjour et merci pour cette magnifique présentation. Merci de me recevoir.
Je vous en prie. Eh bien écoutez, on va attaquer directement avec la première question. Vous êtes à Biarritz donc et en Pyrénées-Atlantiques. Qu'est-ce qui vous touche le plus profondément, Emmanuel, dans ce territoire et comment cet ancrage basque nourrit-il votre combat politique national?
Déjà, le Pays basque, Biarritz, c'est chez moi. C'est là où je suis née, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'habite. Et je pense que quand on est enraciné, on n'est pas hors sol. Quand on est enraciné, on est attaché à une histoire, on est attaché à une culture, on est attaché à une identité, à une manière de vivre. Et je fais de la politique tous les jours avec ça dans la tête. On représente des gens, on représente une identité, on représente un territoire. Et aujourd'hui, plus que jamais, la France a besoin de se réenraciner.
Et d'ailleurs, vous présidez, comme je l'ai dit dans l'introduction, Vivement Demain, hein, donc un mouvement qui veut casser les codes plutôt que caser les potes. En quoi ce mouvement est-il différent de ce que la droite a pu proposer jusqu'ici à la jeunesse? Et quel est le premier changement concret que vous voulez voir naître grâce à lui?
Vivement Demain, c'est un micro-parti politique, mais c'est surtout une réaction. C'est une réaction à une droite qui a trop souvent fonctionné en vase clos. C'est une réaction à une droite qui a trop souvent placé ses amis. Et nous, on a voulu justement, avec les 4000 jeunes qui sont adhérents à Vivement Demain, faire émerger des gens solides.
Il y en a 4000 déjà.
Il y en a 4000, des gens qui travaillent, des gens qui sont là dans tous les territoires. Je pense que la jeunesse de droite aujourd'hui ne veut plus du tout des petites compromissions qu'on a vues depuis des décennies, depuis de nombreuses années. La jeunesse de droite souhaite du courage et la première chose qu'on veut mettre en place chez Vivement Demain, c'est remettre la sélection par le travail et par les idées au cœur d'absolument tout. Voilà.
D'accord, écoutez, ça a le mérite d'être clair. On voit régulièrement des avocats ou des figures qui défendent à la fois des causes islamistes et des suspects dans des affaires dramatiques comme Crépol ou Samuel Paty. Vous avez récemment pointé du doigt ces réseaux. Comment analysez-vous cette porosité que devrait faire une droite responsable face à cela?
Vous savez, moi, je suis en colère. Aujourd'hui, on a des réseaux qui, au nom de la liberté d'expression, qui, au nom des causes soi-disant humanistes, finissent par relativiser le fait d'avoir des idéologies anti-France, finissent par relativiser le fait d'accepter des gens qui crachent sur notre pays matin, midi et soir. Et à force de relativiser, on va finir par banaliser l'inacceptable. C'est ce qui est d'ailleurs en train de se produire. On ne combat pas une idéologie, je pense, quand on dit des demi-mots. On ne combat pas une idéologie avec un centre mou, en étant entièrement tiède. Et pour moi, la droite doit aujourd'hui clairement nommer les choses. La droite doit nommer son adversaire, qui est l'islamisme radical, et elle doit bien sûr refuser toute complaisance avec les islamistes radicaux. La vraie question, c'est est-ce qu'on veut défendre notre civilisation judéo-chrétienne, ou alors est-ce qu'on continue encore de s'excuser de la défendre ? Et c'est ça la véritable question.
Donc vous trouvez que tout ça est trop laxiste, vraiment
C'est pas moi qui trouve que tout ça est trop laxiste, ce sont les Français. Aujourd'hui, si on voit que 40% des Français sont prêts à voter à Rassemblement National, c'est parce qu'ils ont trouvé en Jordan Bardella et en Marine Le Pen quelqu'un capable justement de rétablir l'ordre, et ils font confiance aujourd'hui à ces personnalités-là. Et je pense qu'actuellement, les Français ne font plus confiance à la droite traditionnelle, et c'est bien dommage.
Voilà, c'est ça que je voulais vous entendre dire. vous assumez votre foi chrétienne hein, publiquement, y compris dans des moments symboliques comme Pâques. Hein, donc est-ce que cette foi vous aide à garder l'espérance, Emmanuel, dans un paysage politique parfois décourageant? Et quel message porteriez-vous à des auditeurs hein, qui se sentent parfois, pour ne pas dire beaucoup, abandonnés?
Oui, j'assume ma foi. Et dans le climat actuel, c'est presque devenu un acte de résistance, et c'est affolant. La foi, moi, d'accord, me donne une boussole, la foi me donne une stabilité, et la foi m'empêche de céder au cynisme. Quand je dis tout ça, on me taxe bien souvent d'être facho. Comme quoi, croire en Dieu,
c'est... ça aussi, c'est facho.
C'est exactement, c'est facho. Arborer son drapeau, c'est facho. Croire en Dieu, c'est facho.
Mais qu'est-ce qui ne l'est pas, en fait, à force on se...
La bien-pensance idéologique woke, je pense. Et moi, je pense que c'est important aussi d'arborer la foi, judéo-chrétienne, parce que la France, ce n'est pas seulement un territoire. La France, c'est aussi une civilisation, c'est une histoire, et cette civilisation, elle mérite qu'on la protège.
Juste une petite pause, un petit message pour les auditeurs de Radio Courtoisie.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Et comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs de Radio Courtoisie, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 Boulevard Murat, 75016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous. Emmanuel Brisson, vous avez eu des mots très forts hein, il y a quelques mois pour vous désolidariser du spectacle effroyable offert par certains à droite. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rend vraiment optimiste sur la capacité de la droite à se rassembler vraiment autour de l'intérêt des Français plutôt que des calculs ?
Vous savez, depuis plusieurs années, ce qui me rend optimiste, ce n'est pas les appareils politiques, ce ne sont plus les partis politiques, c'est bien dommage, mais ce sont les Français. Je pense que les Français en ont assez de cette politique spectacle qu'on nous offre depuis l'élection d'Emmanuel Macron, depuis 2017, une politique qui ne cherche qu'à faire le buzz, qui ne cherche que le clash, qui ne cherche que les coups de communication. Et aujourd'hui, les Français veulent autre chose. Ils sont dans une attente énorme d'une droite claire, d'une droite qui est courageuse et d'une droite qui protège. Et moi, je pense que si la droite continue à ne pas vouloir se réformer profondément, elle continuera forcément de décevoir.
Et c'est ce que vous essayez justement de faire
Oui, moi, c'est ce que j'essaye de faire depuis plusieurs années. C'est compliqué parce qu'il y a les vieux barons de la politique qui ne veulent pas voir bouger les choses, qui ne veulent pas l'émergence d'une nouvelle génération. Mais ça a toujours été le cas. C'est juste qu'on le dit plus librement, plus facilement devant les plateaux télé. Moi, j'ai pas peur, en fait, de dire que voilà, on a essayé de me barrer la route à plusieurs reprises. Je pense que mes prédécesseurs qui ont essayé de faire bouger les choses dans des partis traditionnels tels que le Parti Socialiste ou les Républicains et qui ont échoué parce qu'on leur a aussi barré la route avaient peut-être moins de facilité à le dire ouvertement, peut-être par pudeur et surtout parce qu'aujourd'hui on est une génération qui parle beaucoup plus librement et qui n'a plus honte et tant mieux. Voilà. La peur change de camp.
Et vous avez d'ailleurs un sacré groupe jeunes républicains, plus largement, hein, si on parle plus largement, Voilà, dont vous pouvez peut-être nous parler, qui est quand même assez impressionnant aussi.
Oui, bien sûr. En fait, moi, je me suis rendu compte en faisant un tour de France, donc j'ai été dans 64 départements, qu'aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus forcément s'engager dans un parti politique dit classique. Mmh. Et par conséquent, chez Vivement Demain, on accepte tous les jeunes qui ont une sensibilité de droite, parce qu'on s'assume clairement d'être de droite. Je pense que le mot « droite » ne doit plus être un tabou. Et par conséquent, on a des jeunes qui sont soit engagés dans un mouvement politique, soit qui ne le sont pas. Et on accepte voilà, tous ceux qui veulent travailler en bonne intelligence. C'est un peu l'union des droites.
C'est ça, en quelque sorte.
Exactement.
Et en tant que porte-parole des Républicains dans les Pyrénées-Atlantiques, vous êtes souvent donc, sur les plateaux hein, pour parler vrai, hein. Qu'est-ce qui a le plus changé dans votre perception du parti ces derniers mois et quelle est la feuille de route que vous défendez pour qu'il redevienne le parti de l'espérance, va-t-on dire ?
Vous savez, moi, je ne veux plus m'adresser aux partis politiques. Je pense que je me suis suffisamment épuisée à vouloir changer les choses de l'intérieur. Aujourd'hui, je veux m'adresser aux Français, à la communauté relativement jeune qui me suit notamment sur les réseaux sociaux. Je l'ai dit depuis le départ d'Éric Ciotti, donc c'était déjà en juin-juillet 2024, il faut changer de logiciel chez les Républicains.
Oui, parce que ça fait pratiquement 2 ans.
Ça fait deux ans en fait que je rabâche la même chose. Ça fait 2 ans que je dis qu'on est sur le logiciel de Sarkozy de 2007 et que depuis on décline des mesures techniques, qu'on n'a plus du tout inventé une seule idée. Ça fait 2 ans que j'explique qu'il faut absolument faire un tour de France, qu'il faut aller au contact des Français, qu'il faut leur redonner espoir.
Ce que vous avez fait.
Ce que j'ai fait, et malheureusement, ça ne s'est pas fait dans mon parti politique. Je le regrette, mais je ne vais pas m'épuiser plus que ça. Donc moi, j'essaye, tant bien que mal, de dire la vérité, même quand celle-ci dérange, d'assumer une ligne qui est complètement claire sur les questions de sécurité, sur les questions d'autorité, d'identité. Et je pense que si on fait ça, la droite pourra redevenir un grand parti d'espérance le jour où on sera de plus en plus nombreux à être crédibles et à être sincères.
Alors comme c'est un sujet, vous en doutez, qui touche et qui parle à nos auditeurs, quand vous venez d'évoquer la sécurité, est-ce que vous pouvez un peu développer ce que vous, voilà, les points qui vous paraissent vraiment les plus importants et, voilà, qu'il faut...
Aujourd'hui, le principal combat, je pense qu'il est civilisationnel.
Ouais.
Personne ne vous dira l'inverse. Il faut être beaucoup plus ferme en matière de sécurité. Il faut des exécutions de peine systématiques. Il faut augmenter également des places de prison. Tout le monde veut de nouvelles places de prison, mais personne ne les veut à côté de chez soi. Et il faut renvoyer systématiquement les OQTF, évidemment. Moi, je suis déçue parce qu'à chaque nouveau ministre de l'Intérieur, j'attends des choses et j'ai l'impression que rien n'est fait.
Bah, c'est surtout que on nous donne l'impression que c'est infaisable.
On nous donne l'impression que c'est infaisable parce qu'on manque cruellement de courage politique en France. Je pense que le prochain président de la République doit renverser la table, doit instaurer de nouvelles réformes, doit être un Milei à la française qui n'a pas peur de tout casser sur absolument tous les sujets, à commencer par l'éducation. On a tellement délaissé l'éducation aujourd'hui. Les seuls qui parlent d'éducation en France, c'est l'extrême-gauche. L'écologie, c'est pareil. Et en fait, il y a des thématiques qu'on n'ose plus aborder ou qu'on aborde avec un laxisme incroyable par peur d'avoir des professeurs dans la rue qui manifestent, des associations, des syndicalistes. Mais il ne faut plus avoir peur de ces gens-là.
Il y a quand même chez M. Zemmour et Mme Knafos, ils sont assez vigilants, les parents vigilants, qui sont quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qui sont quand même, c'est le cas de le dire, plutôt actifs dans ce domaine.
Je suis d'accord avec vous. Éric Zemmour et Sarah Knafo parlent constamment de ce sujet. Ils le font avec un certain aura. Mais en revanche, moi, je vous parle plutôt des partis traditionnels, parce que même si on peut apprécier ce que dit Mme Knafo sur ce sujet, elle ne fait que 10%. Et M. Zemmour, 7%. Donc, au bout d'un moment, il faut que les partis dits traditionnels qui attirent davantage de personnes commencent à arborer ces sujets de manière constante et en profondeur, en n'ayant pas peur de dire les choses.
Et derrière les chiffres et les sondages, qu'est-ce qui vous motive le plus personnellement dans cette bataille et quel est le projet concret que vous voulez porter pour votre circonscription et pour la France ? Vous avez le temps.
Alors moi, je ne fais pas de la politique pour commenter le déclin, je fais de la politique pour l'empêcher. Ce qui me motive particulièrement, c'est du concret. Je refuse que la France devienne un pays où on s'habitue à l'insécurité. Je refuse que la France devienne un pays où on s'habitue au déclassement économique et au renoncement également. Je veux une France, moi, qui protège. Je veux une France qui transmet. Et tout cela, ça passe bien entendu par le local. Ça passe par des choses très simples, par la sécurité, par le pouvoir d'achat. Et c'est ça que je souhaite pour ma circonscription si demain je suis élue députée et plus largement pour la France.
Et quant au pouvoir d'achat, quels sont les points les plus... qu'est-ce que vous feriez, on va dire, plus concrètement, première mesure, allez.
Aujourd'hui, on nous bassine avec des non-sujets. On nous bassine avec une idéologie woke, une idéologie LGBTQ+, comme si c'était ce qui intéressait les Français en priorité. Moi, je suis désolée, mais les Français en priorité, ils s'intéressent à leur fin de mois. Les Français en priorité, ils se disent, la mère de famille, elle se dit, mais je peux même pas nourrir mes enfants, je peux même pas remplir mon frigo, je peux plus partir en vacances. C'est ça qui intéresse les Français, c'est que la vie explose, tout augmente, sauf les salaires. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est justement de réhabiliter les salaires et de s'occuper de la question du pouvoir d'achat. Et moi, ce qui me tient particulièrement à cœur, et c'est pour ça que je me suis engagée à droite, c'est la valeur travail actuelle.
C'est pour ça que j'insistais là-dessus.
Voilà, actuellement, je pense qu'aucun parti politique ne parle plus du travail. On a aujourd'hui une France qui est devenue une France des assistés. C'est-à-dire qu'on fait des chèques à tout va, à des gens qui préfèrent rester à la maison parce qu'ils gagnent plus en touchant Pôle emploi qu'en allant travailler. Et ça, c'est pas normal. Il faut dire aux Français qui ont envie de travailler plus qu'à la fin du mois, ils gagneront plus. Donc oui, mais c'est pour ça que je m'étais engagée à l'UMP à l'époque, parce que le travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy, c'est quelque chose qui me parle et qui me parle encore aujourd'hui et qu'on n'a pas réussi à mettre en place.
Qu'on a même, n'ayant pas peur de le dire, complètement abandonné pour moi.
On a complètement abandonné. Aujourd'hui, plus personne ne parle de ce sujet qui est pourtant un sujet fondamental. Le travail, ça concerne absolument tous les Français. Donc, qu'est-ce qu'on en a à faire de tous les autres sujets qu'on nous bassine matin, midi et soir pour éviter justement de traiter la cause de tout. Mais bien sûr, c'est complètement superflu. Et c'est parce que nos politiques n'ont pas envie de parler aux Français, c'est-à-dire qu'ils sont complètement déconnectés et ils ne savent même plus ce que touchent réellement les Français.
C'est prometteur pour 2027, hein ?
Moi, j'ai pas de candidat pour 2027, si vous voulez tout savoir.
Ça ne m'a pas échappé, mais non, c'est un peu effrayant quand même.
Je trouve qu'il y a un nivellement vers le bas de la classe politique et c'est assez effrayant, ouais.
Et vous êtes souvent invité, donc comme je l'ai déjà dit à la télévision, parce que évidemment, il y a deux sujets qui vous agacent. Qu'est-ce qui vous agace le plus, d'ailleurs, dans le traitement médiatique actuel, je vous vois sourire, de la politique, et comment faites-vous pour rester authentique face à la pression ? Parce que c'est le cas.
Ce qui m'agace le plus, c'est qu'on parle de plus en plus de politique sans parler de la vie des gens. On transforme tout en clash, en petites phrases, en mise en scène, alors que derrière cela, il y a quand même des Français qui travaillent, il y a des Français qui doutent, il y a des Français qui s'inquiètent vraiment. Moi, ce qui me touche, c'est ça. Ce sont les discussions que j'ai pu avoir sur le terrain quand j'ai été candidate. Ce sont les regards, ce sont les inquiétudes qu'on me confie parfois. Et j'ai le sentiment que tout ça disparaît complètement à l'écran. Alors moi, pour rester authentique, Voilà, ça plaît ou ça plaît pas, mais je parle avec le cœur. En fait, je parle comme si on était à un comptoir de bar, vous voyez. Quand je rentre dans un studio, je vais pas arborer une carapace de femme politique. Déjà, je trouve ça ridicule à mon âge. Quand je vois des jeunes qui font des plateaux télé et on a l'impression qu'ils parlent qu'en éléments de langage, avec leurs mains, avec leurs phrases toutes faites. Je me dis que c'est bien dommage parce que s'il y a une génération qui peut avoir un petit peu de fraîcheur en politique, c'est bien ma génération. C'est la génération des trentenaires.
Tout à
Donc
fait.
je parle avec le cœur, je parle avec mes convictions, je parle avec mes tripes, que ça dérange ou non. Et moi, je préfère déranger en étant sincère plutôt
Que de faire du media training, c'est ça?
que de plaire en étant lisse. Voilà.
Parce que t'en...
J'ai pas envie d'être lisse. Je pense qu'il y a suffisamment d'hommes politiques qui sont lisses et ça agace les journalistes à juste titre parce qu'ils entendent constamment la même chose. Donc voilà, je préfère m'assumer pleinement.
Bah c'est oui, comme je disais, vous avez un peu l'impression que ceux qui votre génération tombent un peu dans le dans tout ce qui est on a l'impression qu'ils sortent d'un cours de media training, c'est ça qu'à peu près que vous voulez dire. Moi aussi je suis cash.
Tout à fait, vous avez raison. Moi, j'ai été abordée par pas mal d'agences de communication pour me donner des cours de media training, pour m'aider à faire ma communication. J'ai à chaque fois refusé. Alors qu'il y a beaucoup de jeunes de ma génération qui seraient fous d'être abordés par des agences telles que celle-ci, parce que ça coûte déjà extrêmement cher. Donc, quand on vous aborde, c'est qu'on le fait gratuitement. Mais moi, ça m'intéresse pas parce que j'ai pas envie de devenir une bête. De communication, j'ai pas envie de devenir quelqu'un de lisse. Si je me suis engagée en politique, c'est vraiment pour parler avec le cœur, pour défendre ce en quoi je crois. Ça plaît ou ça plaît pas forcément. Parfois, ma communauté, qui est une communauté plutôt de droite, voire parfois très à droite, n'est pas d'accord forcément avec tout ce que je dis, mais je suis pas là pour plaire en fait. Je suis là pour être.
Pour dire les choses.
Voilà, pour dire les choses tout à fait, pour casser les codes. C'est mon slogan chez Vivement Demain et je le tiendrai jusqu'au bout de ma carrière politique, je l'espère.
Emmanuel, si vous aviez un message pour parler, puisque vous parlez vrai, hein, pour parler donc directement aux auditeurs de Radio Courtoisie, il nous reste 3 minutes, hein, qui sont très attachés à la France éternelle. Quel est le message d'espérance ou le combat qui vous tient le plus à cœur en ce printemps 2026?
Déjà, j'aimerais dire aux auditeurs de Radio Courtoisie de continuer. Moi, on m'a beaucoup dissuadée d'aller sur votre chaîne, chez Boulevard Voltaire, chez CNews, parce qu'on m'a dit si tu fais ça, tu es facho, ça va te fermer des portes, ce sera très compliqué pour toi pour la suite. Ça l'a été parce qu'on m'a en effet accusée d'être complètement facho. Quand on tape mon nom sur Google, on m'assimile à la droite un petit peu réactionnaire, mais je m'en fiche. En réalité, je me dis pourquoi est-ce que quand on est à gauche, on a le droit pleinement de s'assumer, de dire des énormités, d'être anti-flic, d'être anti-France, d'être pro-palestinien, et ça passe. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais de problème pour trouver un travail. On dira toujours que c'est très bien parce que vous êtes humaniste et vous travaillez pour les autres. Alors qu'à droite, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué d'être de droite. Donc moi, j'aimerais dire aux auditeurs de Radio Courtoisie, bravo, continuez d'écouter cette magnifique chaîne qui laisse une liberté d'expression incroyable. Parce que moi, c'est la troisième ou quatrième fois que je suis reçue et j'ai toujours été extrêmement bien reçue. Donc je vous remercie. C'est pas forcément le cas de toutes les chaînes. Donc vraiment, merci infiniment pour cette liberté de parole. Et j'aimerais aussi leur dire de pas avoir peur. Voilà. À gauche, ils n'ont pas peur d'aller manifester tous les samedis place de la République. Je pense que la droite ne doit plus avoir peur, ne doit plus s'excuser. Je pense que cette campagne présidentielle sera extrêmement dure parce qu'il y aura des médias, notamment les médias de gauche, des médias du service public, qui feront campagne contre la droite, contre toutes les droites, qu'ils vont nous faire oublier la NUPES, qu'ils vont nous faire oublier. Que la France insoumise a fait campagne pendant 2 ans dans les quartiers, ils vont vouloir nous faire oublier qu'ils ont été chercher l'électorat musulman. Eh bien moi j'ai envie que voilà, on n'oublie pas tout ça et qu'on vote bien dans quelques mois.
Et puis, si vous me permettez, moi, ça me permet aussi de... Si ça ne vous dérange pas...
Allez-y.
Hein, ça, je me permets aussi de dire que j'essaie souvent d'inviter aussi des personnes de gauche pour débattre avec des personnes de droite et que je reçois des messages très agréables. Bien évidemment, c'est de l'humour. Donc, s'il y a pas, si, voilà, si les personnes ne veulent pas débattre, je pense que je fais partie de ces gens qui sont à l'écoute et prêts à recevoir tout le monde. Si vous ne voulez pas débattre, c'est vraiment dommage. Voilà. Je tenais quand même à le dire. Parce
c'est raison.
Emmanuel Brisson, malheureusement, ça passe très vite. Ce sera le mot de la fin. Donc, merci infiniment d'avoir été avec nous et d'être revenu dans mon émission, justement. Entre autres, votre attachement viscéral au Pays Basque, hein, votre énergie intacte, votre refus, je crois qu'on l'a compris, des petits calculs et votre foi assumée nous auront appelé qu'une droite de conviction enracinée et combative est non seulement possible, mais nécessaire. Chers auditeurs, vous l'avez entendu, il existe encore des voix jeunes, sincères et courageuses qui portent haut l'amour de la France éternelle et le désir de la transmettre intacte aux générations futures. Donc Emmanuel, nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre combat, à Biarritz, dans les Pyrénées-Atlantiques et bien au-delà. Et nous vous retrouvons avec plaisir sur cette antenne, j'espère.
Merci beaucoup.
À très bientôt. Et chers auditeurs, n'oubliez pas de vous rendre sur... soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat 75016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous. À très vite.